Bien le bonjour, nous sommes en ce début du mois de janvier, en début d'année donc 2012. C'est la première de l'hebdo des lycéens, l'occasion de souhaiter à tous nos amis auditrices et auditeurs une bonne année 2012 et une année avec de l'actualité qui va être dense. C'est fou ce qui va se passer comme chose dans le domaine politique ou dans le domaine sportif par exemple cette année. Eh bien nous essaierons de vous en rendre compte, à moins que les lycéens ne choisissent d'autres infos que celles dont tous les autres parlent. Eh bien oui, c'est un peu ça le principe de l'hebdo des lycéens. Nous avons aujourd'hui autour de la table dans ce studio sur Fréquencié, sur le 97.9, Antoine, Laurine, Audrey, Chanice, Justine, Lise, Pierre et Stéphanie. Nous terminerons cette émission avec un petit échange autour du thème des citoyens assesseurs. Vous en saurez plus si vous ne savez pas trop de quoi il s'agit, ou peut-être que vous en avez un petit peu entendu parler, en suivant donc cette émission donc qui va nous emmener tranquillement jusqu'à 13h. Alors, c'est Antoine. Antoine qui va nous donner l'info qu'il a sélectionnée sur cette semaine. Antoine, les victimes de la route, des oui. Chiffres.
Alors, 3970 personnes ont perdu la vie sur les routes en 2011. C'est 22 de moins qu'en 2010, mais on a noté une hausse de 14,6% en décembre dernier. Ce chiffre passe de 294 l'an passé à 338 morts sur la même période. Les conditions météo particulièrement douces et le trafic plus important expliquent cette hausse. D'autre part, les deux roues motorisées représentent un quart des personnes tuées sur la route, dont les motards touchés d'une hausse de 10%. Ainsi, l'année 2011 est la dixième année consécutive de baisse de la mortalité routière. La sécurité routière, elle, se réjouit de cette baisse, mais je ne pense pas que ce soit le terme qualifié pour cette baisse significative.
Pourquoi tu penses pas que ce soit le... On peut pas se réjouir quand même que ça diminue un peu ?
Bah, ça diminue, mais quand même de 22 personnes, je pense pas que... C'est significatif. Je pense que c'est significatif.
Ce qui compte en tout cas, c'est que la courbe aille dans le bon sens.
Oui.
Sur les chiffres que tu nous as donnés, apparemment, c'est toujours du côté des deux roues que...
Oui, il y a toujours le plus de morts.
Oui. Ils n'ont, comme disent les motards, ils n'ont que leur peau et leur blouson comme carrosserie.
Oui.
Hein.
Oui.
Ouais. Est-ce que tu penses qu'il faudrait encore réduire la vitesse ? Je sais qu'il y a des associations soucieux de défendre les victimes de la route, de la violence routière, qui disent qu'il faudrait enlever 10 km/h sur toutes les vitesses. Est-ce que ça te paraîtrait quelque chose d'intéressant ?
Je ne pense pas que ce soit la vitesse qui soit la cause. Par exemple, si on roule à 90 sur une départementale, je ne pense pas qu'on est en danger, mais c'est plutôt les vitesses beaucoup plus élevées. Je pense que là, il y a plus de risques.
Est-ce qu'on a les chiffres sur les endroits où les accidents mortels sont les plus courants ? Est-ce que c'est plutôt sur les petites routes départementales ou les autoroutes ?
C'est plus, il y a davantage sur les autoroutes aussi, mais les accidents sont plus proches du lieu d'habitation.
Sur les petits déplacements ?
Oui.
Est-ce que c'est, à ton avis, lié à l'habitude et qu'on fait moins attention peut-être quand on est habitué à une route ?
Forcément moins vigilant puisqu'on connaît la route, donc on va un peu plus vite ou on prend plus de risques.
Est-ce qu'on a des chiffres, des éléments par rapport à la consommation d'alcool ou de stupéfiants ou...
Je sais que l'alcool, c'est toujours, il n'y a pas eu de hausse ni de baisse, mais les consommations de drogue sont en baisse.
Ouais, et donc ça se retrouverait au niveau un petit peu au niveau de la route. Toi-même, est-ce que tu es favorable à l'idée que, par exemple, on installe sur des voitures des systèmes qui empêchent que l'on démarre si on est un peu alcoolisé ?
C'est peut-être bien, mais après, quelqu'un qui a bu peut faire souffler, par exemple, son enfant et la voiture va démarrer pour autant. Donc,
et voilà. Et là, on est dans une réaction totalement française. Avant même que la loi ou une mesure ait été prise, on s'est déjà comment on va la détourner. Alors on va revenir au radar maintenant, donc avec Laurine. Donc nous te laissons nous guider, Miss Radar. Je ne l'ai pas aidé beaucoup dans le lancement.
Donc
elle va vraiment avoir beaucoup de mal. Là, elle avance un petit peu au radar en ce moment.
De nouvelles mesures.
Mais ça va venir. Oui, alors Laurine, on t'écoute.
Donc...
Je Je pense que nous allons revenir au radar un peu plus tard parce que là, bon, on est en train de se parler un petit peu, hein, donc à moins que on s'y retrouve. Ah oui, c'est parti, allez.
Donc de nouvelles mesures sont prises concernant la sécurité routière.
Je crois que ça va être dur. Allez, je crois que ça, on va y revenir, Steve Allery, appareil au radar. On va repartir tout de suite avec Audrey sur un autre sujet. Audrey, tu veux nous parler de modifications de comportement dans certains commerces particuliers en Arabie Saoudite.
Oui, donc depuis
mardi... on te pardonne tout de suite,
oui,
pour ta voix.
Merci. Depuis mardi 3 janvier en Arabie Saoudite, un décret du roi Abdallah est entré en vigueur. Ce décret impose aux magasins de lingerie féminine de remplacer leurs vendeurs pour la plupart asiatiques par des vendeuses saoudiennes. Plus de 7000 magasins sont concernés et cela va apporter à terme environ 44 000 emplois pour les saoudiennes. Donc elles vont maintenant pouvoir acheter leur lingerie sans la gêne de passer par des vendeurs masculins. Cette mesure est décriée par les responsables religieux qui s'opposent au travail des femmes dans plusieurs secteurs d'activité pour empêcher la mixité.
Alors, c'est, on pourrait dire, un petit fait vu d'ici, mais c'est visiblement un fait important en Arabie Saoudite. Alors toi, tu nous vas chercher cette info, pourquoi ? Pourquoi tu la mets en valeur ?
Parce que là-bas, les femmes n'ont pas le droit de, par exemple, de toucher à la monnaie,
de conduire.
Donc je trouve que c'est un bon début pour qu'elles puissent s'insérer dans la vie.
Enfin, c'est un pas positif, quoi.
Oui. Hein?
Ouais. Donc, c'était à signaler. Shanice, toi, tu nous parles encore de questions de nouvelles technologies, de pédophilie. Aux États-Unis, c'est ça ?
Non, c'est en France.
C'est en France.
C'est au Mans.
C'est en France. Au Mans.
Oui. Donc, au Mans, Christophe a consulté et téléchargé sur son ordinateur des milliers d'images et de vidéos pornographiques mettant en scène des mineurs. Il avait été repéré à la suite d'un signalement du FBI. En effet, en 2 ans, ce sont des milliers et des milliers de photos et des centaines de vidéos mettant en scène des mineurs que le manceau de 33 ans a consulté, téléchargé et diffusé. Il a affirmé avoir ciblé ses choix sur des ados de 13 à 18 ans, mais après analyse, on s'est aperçu que le voyeur s'intéressait aussi à de très jeunes enfants. L'homme explique que ses actes en justifiant « Je n'avais pas de relation très poussée avec ma compagne, alors je me suis repliée là-dessus », alors que sa femme et sa mère sont assises derrière lui. Il avale difficilement sa salive. L'homme écope de 10 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve. Il devra de plus poursuivre les soins entrepris depuis son interpellation en novembre dernier.
Donc c'est le FBI qui vient révéler ce fait-là.
Oui,
c'est
oui.
Vraiment le phénomène de la toile complète, quoi.
Oui.
Shanice, donc sujet qui évidemment interpelle. Toi, tu le retiens ?
Oui, parce que c'est quand même en 2 ans, il a déjà qu'il ait téléchargé autant de choses alors qu'il est en couple, et de plus qu'il ait été repéré par le FBI, c'est que c'est vraiment un fait important.
Oui, c'est que c'était pas sur des petits volumes, ouais.
Voilà.
Oui. Tu dis le fait qu'ils soient en couple, tu veux dire qu'il y a un certain nombre de dérives de ce type, on le comprendrait mieux si c'était quelqu'un qui était tout seul.
On le comprendrait pas mieux, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de pédophiles qui sont célibataires,
ouais,
ou qui sont isolés, et donc je pense que le fait qu'ils soient en couple, ça intensifie l'importance de ces actes.
Ouais, et qu'on peut donc s'interroger effectivement sur toutes les personnes qui peuvent éventuellement, qui peuvent être coupables, puisqu'on va parler là de culpabilité en matière d'utilisation d'images à vocation pédophile, donc sur la toile. On va essayer de revenir vers Laurine. Laurine, donc, on évoquait tout à l'heure les nouveaux textes sur les radars.
Oui, donc de nouvelles mesures sont prises concernant la sécurité routière. En effet, les avertisseurs de radars ne sont plus autorisés dans les véhicules. Ces avertisseurs, ils vont être remplacés par des assistants d'aide à la conduite. Ces assistants, ils vont plus signaler le radar lui-même à l'emplacement où il est, mais ils vont plutôt signaler la zone contrôlée, et elle apparaîtra donc sur ces assistants. Toute personne qui aura un avertisseur de radar, elle devra payer une amende de 1 500 euros et aura 6 points en moins sur son permis de conduire.
Est-ce que tu sais comment les gens qui ont des avertisseurs intégrés dans des appareils qu'ils ont actuellement, est-ce que tu sais comment les gens vont retirer ces fonctions d'avertissement? Enfin,
non, pas du tout.
Non, et je crois que t'es pas la seule. Hein. Et je crois que c'est effectivement l'un des gros problèmes, c'est qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris, on est passible d'une amende si on a un avertisseur. Or, il existe encore des marques dans lesquelles on ne peut pas enlever la fonction avertisseur parce que l'application n'existe pas. TomTom, par exemple, n'a pas encore développé cette application. Garmin, par contre, l'a déjà. Les radars, ça te paraît quelque chose d'utile?
Bah oui et non. Enfin moi les radars oui parce que par exemple les personnes qui enchaînent les contraventions, au bout d'un moment les points seront retirés, donc là ça peut être utile, mais moi je suis pas forcément d'accord avec les panneaux qui avertissent justement qu'il va y avoir un radar.
Tu dis qu'il faudrait pas de panneaux.
Oui, et encore moins d'assistants d'aide ou d'avertisseurs. Parce que dans ces cas-là, la personne, elle ralentit juste au moment où il y a le radar. Et après, elle accélère et c'est pas pour autant...
On le voit très bien sur un radar pas très loin de notre secteur ici, sur le pays de Haute-Sarthe. Il y a un panneau qui est à presque 2 km du radar. Toutes les personnes qui connaissent, ce sont plutôt des routes qui sont utilisées par des habitués. Tout le monde roule normalement jusqu'au radar, ralentit au radar et après le radar réaccélère. En gros, c'est clair, c'est le comportement adapté. Alors, par contre, pour les gens qui seraient pas prévenus du tout, oui. C'est clair qu'ils pourraient assez facilement tomber dans le panneau. À ton avis, les radars, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un vieux débat là-dessus? C'est pour la sécurité routière? C'est pour le bien des gens? Ou alors c'est pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État?
Pour moi, c'est pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État.
Ouais, c'est-à-dire qu'on les met pas forcément toujours où il faudrait?
Oui, et puis... non, je sais pas. Enfin, pour
mais
moi,
pour reprendre, tu dis il faut qu'il y en ait, quoi.
Oui.
Le plus important pour toi, ce serait donc les points pour menacer le permis, mais pas l'amende.
Bah, ça fait peut-être cher après une amende. Quoique après, c'est leur problème. Enfin, faut qu'ils fassent attention.
Ouais, et puis face à une amende, qu'on ait 1000 euros de revenus ou qu'on gagne 500 000 euros comme si on est entraîneur du Paris Saint-Germain, évidemment, ça ne représente pas la même chose quand il faut payer je ne sais plus combien d'amendes. Hein, si c'est 135, évidemment, ce n'est pas la même somme. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, enfin, il y a toute une réflexion à avoir là-dessus. En tout cas, par rapport au radar, j'ai cru comprendre qu'il y aurait une tolérance pendant quelque temps sur ces instruments que les gens ne savent pas trop utiliser pour justement déconnecter cette fonction avertisseur. Encore une fois, s'il s'agit d'un texte de loi qui passe, alors que les modalités concrètes de mise en application ne sont pas forcément vues dans le détail. Justine.
Oui.
Justine, alors, tu veux nous parler des Français qui sont de plus en plus seuls.
Après une analyse des recensements de l'INSEE, il s'avère que 9 millions de Français quand même, soit un Français sur 7, vivent seuls. La solitude toucherait plus les femmes que les hommes, sauf entre 30 et 65 ans. Les recensements indiquent aussi que le chiffre a plus que doublé entre 1962 et 2007. Les raisons de cette augmentation sont les suivantes. Donc on a les jeunes qui, lorsqu'ils quittent le domicile familial, ne le font plus pour se marier immédiatement. La vie de couple commence donc plus tard. Le nombre de divorces a aussi augmenté et après 80 ans, c'est la perte du conjoint qui entraîne la solitude, puisque les personnes âgées entrent moins en maison de retraite.
Oui, et donc là, on a plus de femmes aussi, toujours, dans les personnes seules âgées. Le phénomène de vivre seul, à ton avis, c'est quelque chose qui est plutôt en général subi ou choisi?
Comment
ça évolue dans les mentalités, tout ça?
Je pense que c'est en fait alterné. Quand on dit vivre seul, on vit au domicile seul, mais je pense que les gens sortent ou ils rejoignent le domicile familial, ils vont voir les parents, la famille, enfin... C'est peut-être un choix, mais je pense pas que ce soit vraiment mal vécu.
Est-ce que c'est vivre seul ou vivre indépendant, finalement? C'est peut-être ça la question.
Oui. Bah, pour les jeunes, après, on pense surtout à l'indépendance. Après, c'est vrai que pour les personnes âgées, c'est plus subi. Enfin,
oui.
Ça a plus... Quoique, les gens, c'est tout à fait compréhensible, je trouve, qu'ils veuillent rester chez eux au lieu d'aller en maison de retraite après 80 ans.
Alors ça, c'est tout à fait logique. Hein. Mmh. C'est effectivement important de préserver le plus longtemps la vie à la maison. Ouais, mais ce qu'on rencontre de plus en plus, ce sont surtout des femmes qui choisissent volontairement de vivre seules, tout en ayant une vie, on va dire, de couple, sans pour autant partager le même domicile. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et ce que tu expliquais tout à l'heure sur le divorce, c'est souvent des déceptions par rapport au simple fait de vivre ensemble, et que les gens qui ont eu une expérience malheureuse disent « je recommence pas », mais pour autant, ils assument une vie tout à fait normale, quoi, et entière, hein.
Bah, dans le cas du divorce, il me semble aussi les hommes sont plus seuls après un divorce, parce que les enfants reviennent beaucoup plus souvent à la femme, en fait.
L'histoire de la garde, ça c'est un vrai problème aussi.
C'est ce qui isole les hommes, en fait, dans les cas de divorce.
Ouais. Et là, il y a encore des choses à faire sur ce domaine-là. On va quitter ce domaine, cette petite observation sociologique sur la France aujourd'hui, pour aller avec Lise beaucoup plus loin. Et Lise a vu, paraît-il, des kangourous sur la Lune, où j'ai rien compris à son sujet.
Non, c'est pas du tout ça, non. Tiens, on va parler d'un minerai rare trouvé sur la Lune qui a aussi été découvert en Australie. Donc, un minerai ramené sur Terre par les premiers astronautes qui se sont rendus sur la Lune et qu'on a longtemps pensé être spécifique à la Lune a été trouvé dans les roches d'Australie, vieilles de plus d'un milliard d'années, ont indiqué des scientifiques jeudi. Alors, c'est un nom assez compliqué à prononcer. La tranquillitite est un minerai
Tu pourrais nous la refaire, s'il te plaît ?
La tranquillitite.
Bon, voilà, ça commence par un T.
Voilà. C'est un minerai qui doit son nom à l'endroit où il a été trouvé en 1969.
La mer de la tranquillité.
Tout à fait, une plaine de basalte située sur la Lune. Ce minerai a longtemps été considéré comme un minerai propre à la Lune, jusqu'à ce que des géologues en trouvent des échantillons dans l'ouest de l'Australie, a déclaré Birger Rasmussen, un scientifique australien. Il n'avait jamais été découvert dans d'autres échantillons terrestres depuis plus de 40 ans, a déclaré le scientifique. Les échantillons de la Lune étaient considérés comme extrêmement précieux et ont été soumis à des quantités d'examens très détaillées, alors qu'on en avait en fait sous notre nez depuis toujours, a-t-il relevé. On en a toujours eu sur Terre, ils ne sont pas juste venus de la Lune, a souligné le scientifique qui a publié ses recherches dans la publication Géologie. Cela signifie qu'en gros, on a les mêmes phénomènes chimiques et les mêmes processus qui se déroulent sur la Lune et sur la Terre. Ce minerai rare a jusqu'à présent été trouvé dans 6 endroits différents en Australie. Il permet notamment une datation précise des roches qui le contiennent.
Voilà. Intéressant ça, c'est étonnant. Est-ce que c'est vraiment si étonnant que ça finalement ?
Un peu quand même. Je trouve qu'il y a une comment dire, c'est comme un point commun entre la Terre et la Lune direct, ce qui est plutôt...
On n'avait jamais trouvé de point commun entre des composés sur la Lune et des composés...
Si, j'imagine qu'il doit y avoir des choses en commun.
Oui.
Bon, aussi proches.
Mais là, c'est une découverte toute récente, toute
fraîche.
Oui,
c'est tout fraîche.
Ah. L'Australie est plus facilement accessible que la Lune, sans aucun doute.
Oui, c'est sûr.
L'Australie, c'est un pays qui te fait rêver ou pas ?
Oui, j'aime bien. Enfin, je pense que j'irais bien, mais.
Je m'en fiche un peu. Hein.
Non, pas du tout, non, mais c'est pas le pays où j'irais en premier, je pense.
Voilà, d'accord.
Mais c'est vrai que ça m'intéresse quand même.
Ouais, c'est un pays assez étonnant quand même. Hein. Bien, alors Pierre, tu vas nous parler d'un sujet, bon, évidemment plutôt dramatique. Deux faits d'actualité en quelques jours qu'on peut peut-être rapprocher. Enfin, peut-être que je m'avance, Pierre.
Donc hier à Évry dans l'Essonne, un père a retrouvé son fils de 16 ans pendu à un arbre. Selon les premiers éléments de l'enquête policière, il s'agirait d'un suicide. L'absence de l'adolescent avait été signalée hier matin par les responsables du lycée de Courcouronnes où était scolarisé l'enfant. Le père est ensuite parti à sa recherche et on l'a retrouvé en milieu de journée, pendu à un arbre dans un parc à mi-chemin entre le domicile familial et le lycée. Ce suicide fait écho à la mort d'une collégienne de 12 ans ayant eu lieu lundi. La jeune se serait donné la mort avec le fusil de chasse de son père suite au harcèlement dont elle était victime dans son collège.
Bon, alors ça t'inspire quoi, ça, ces deux faits à suivre comme ça ?
Ça me rappelle la discussion qu'on avait eue un peu avant les vacances, donc justement sur le harcèlement à l'école.
Dans cette émission,
ouais. Mmh, oui. Sur le harcèlement à l'école et en fait, bah voilà, enfin, c'est deux faits qui montrent bien que bah ça peut vraiment avoir des conséquences très graves.
Le mal-être des jeunes, est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez entre vous ou dans le cadre de cours?
On parle pas trop non du suicide. Enfin, je veux dire, c'est pas un thème qu'on aborde facilement, mais on voit bien dans le comportement de certains jeunes que ils ont vraiment l'impression, ils ont l'air de vivre des choses graves ou qui peuvent mener à des conséquences funeste.
Est-ce que souvent tu penses qu'il peut y avoir un déficit d'expression, de communication, c'est-à-dire à un moment on peut pas dire finalement qu'on vit des choses difficiles.
Je vois bien qu'il y a certains jeunes qui ont vraiment du mal à aller en parler, parler de leurs problèmes à d'autres. Donc peut-être que si la possibilité de pas pouvoir se confier paralyse certains jeunes.
À ton avis, qui sont les interlocuteurs possibles pour des... Imaginons que là, on est très sérieux là. Imaginons que des jeunes en détresse écoutent cette émission. Toi, par exemple, qu'est-ce que tu conseillerais? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent?
Parler à des amis en qui on peut avoir confiance.
Des amis,
et
ouais.
Puis, ou alors à ses parents ou à des gens de confiance, quoi.
Ouais. Tu commencerais par des amis, oui, ou alors?
La famille.
Ouais, la famille. Et plutôt des amis. Pourquoi des amis d'abord?
Parce que les amis, enfin, je veux dire, ils ont, la plupart du temps, ils ont d'autres âges, donc ils peuvent comprendre mieux que les adultes les problèmes qu'on peut avoir.
Parce qu'il y a bien deux choses dans la lorsque l'on parle. Il y a le fait d'abord de se dégager soi-même, et des amis, c'est plus facile. Et puis, en fait, le fait de parler pour recevoir en échange du conseil, de l'appui. Et ce premier stade, déjà, de pouvoir dire. C'est déjà très très important, et éviter d'aller vers des extrêmes comme tu viens d'en citer. Stéphanie, tu vas nous parler de ces citoyens assesseurs.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté dans le système judiciaire français?
On va voir ça. Alors, depuis mardi, dans les cours d'appel de Dijon et de Toulouse, les citoyens assesseurs siègent aux côtés des magistrats. Ce procédé a été mis en place par le président de la République, qui souhaitait rapprocher le peuple de la justice. Donc, les citoyens assesseurs sont français, ils ont plus de 23 ans et n'ont pas de condamnation à leur actif. Ils sont tirés au sort sur les listes électorales. Le citoyen est sélectionné pour un an, dont 10 jours maximum de siège aux côtés des magistrats. Dès lors qu'on est sélectionné, on reçoit 78 euros et tous les frais de logement, repas sont remboursés. Ces personnes jugeront notamment les agressions sexuelles, les atteintes aux personnes, les vols avec violence ou bien les homicides involontaires. Il faut tout de même savoir que cette réforme vient de débuter dans les cours d'appel de Dijon et de Toulouse, mais que d'ici 2 ans, ceci sera actif dans 10 autres cours d'appel, ce qui représentera environ 6 000 à 9 000 citoyens par an.
Alors c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Certains ont critiqué ce système. Quelles sont les critiques qui sont apportées principalement?
Certaines personnes disent que ça coûterait trop cher parce qu'ils les payent. D'autres professionnels disent que ça peut prolonger les jugements, les dossiers.
Oui, les procédures qui sont déjà longues, oui.
Oui. Et puis même, je trouve que c'est... Enfin, moi, je suis pas trop pour, parce qu'on a, en tant que citoyen assesseur, on n'a qu'une journée de formation. Donc, je trouve que c'est un peu court pour juger de délits qui sont quand même assez importants.
On va en discuter là dans la petite minute qui nous reste. Est-ce que vous vous sentiriez prêt à siéger comme ça en tribunal pour prendre des décisions vous-même? Oui, Laurine.
Prête, non. Mais après, ce sera intéressant de le faire, mais avec une bonne formation et en étant sûr de bien comprendre et de connaître tout ce qui se passe.
Ouais. D'autres points de vue, Lise, oui, un point de vue sur cette question aussi.
Je pense que c'est une... Enfin, pas forcément une mauvaise chose, parce que, à mon avis, ça peut nous faire changer de vision déjà sur les détenus, tous ceux qui vont en prison, sachant qu'on en a jugé un, entre guillemets.
On le voit d'une manière différente. Et puis, je pense qu'une expérience pareille, ça peut nous permettre de nous construire différemment aussi.
Est-ce que vous êtes déjà allé voir une séance dans un tribunal ? Est-ce que quelqu'un y est déjà allé ? Shanice, oui. Qu'est-ce que tu as vu et ressenti ?
Ben, je pense que la vie d'une personne extérieure à tout un dossier d'une personne qui doit être jugée, c'est plutôt bon. Parce qu'elle pourra donner son avis et donner sa vision des choses. Parce que dans les tribunaux, la plupart du temps, ils jugent sur les faits et non sur... ils ne prennent pas en compte tout ce qui est extérieur.
Les textes, mais moins l'humain, c'est ça que tu veux dire ? Voilà, ok. Bah, c'est là-dessus qu'on va refermer cet hebdo des lycéens, le premier de l'année. On va vous dire à tous au revoir.
Au revoir.
Et bonne année.
Bonne année.
Et ben voilà. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine, mais avec un direct en liaison avec l'Italie. Eh oui, on va avoir un peu de soleil. Salut.